On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent par nous.
Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou l'élaboration de règles juridiques concernant la compréhension, la protection, la gestion ou la restauration de l'environnement. Pour vous, Carbone Zéro accueille Bernard Disley, membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cet homme de loi va nous éclairer sur les mesures de protection de la nature.
Bonjour.
Donc vous êtes formateur en droit de l'environnement, mais également membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le CSRPN.
Alors c'est un conseil qui est né dans le cadre de l'application, on en reparlera, de la très grande directive européenne Natura 2000, et où il fallait inventorier des sites nationaux qui pouvaient avoir un intérêt européen. Et pour valider la démarche au plan scientifique, l'administration a mis en place ces conseils composés de scientifiques divers et variés, dans chacun spécialiste dans sa discipline, pour valider les choix qui étaient faits au niveau des sites. Et suite à ça, les textes ont maintenant officiellement mis en place cette commission qui donne des avis, par exemple, quand il faut voir si un plan de gestion de réserve naturelle est bon ou pas pour l'avenir de la réserve.
Donc dans cette émission, on va aborder un sujet qui peut s'avérer être passionnant, le droit de l'environnement, mais bien complexe et souvent peu accessible aux citoyens lambda. Donc vous êtes formateur en droit de l'environnement, mais quels sont les droits de l'environnement? Pourquoi l'environnement a-t-il des droits?
Non, on peut même déjà dire pourquoi un droit de l'environnement. Le droit est une science qui permet de résoudre des conflits sociaux. Et comme dans la société, il y a des conflits en environnement, entre les pollueurs, les pollués, les protecteurs de la nature, ceux qui veulent utiliser les ressources naturelles, il fallait que la société ait une réponse à ces conflits et est né le droit de l'environnement. Alors ensuite, il y a eu des gens qui ont dit « mais il faudrait aussi donner des droits aux gens, un droit à l'environnement pour que les citoyens soient protégés dans leur environnement. »
L'environnement, qu'est-ce qu'on entend par ce mot? C'est quoi l'environnement finalement?
Alors on y met en fait ce qu'on veut, bien que dans le code de l'environnement, il y a une liste de thématiques très précises qui rentrent officiellement dans la définition, comme la protection de la nature, le traitement des déchets, l'eau, la lutte contre le bruit, les pollutions. Donc ça couvre un peu tout, avec parfois des frontières un peu floues. Quand on fait de l'urbanisme, il est évident qu'on va peut-être urbaniser des sites naturels et que donc on commence, au niveau de l'urbanisme, à reparler d'environnement. Donc c'est une définition un peu variable, à géométrie variable, selon les problèmes. On peut avoir une vision très large et finalement l'environnement peut presque tout couvrir, ou une vision plus étroite.
Donc heureusement que ça existe, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne construit pas n'importe comment et n'importe où.
Disons qu'on ne devrait peut-être pas construire n'importe comment, n'importe où. Il y a malheureusement l'actualité très récente de la tempête Xynthia qui a montré que le droit de l'environnement n'est pas toujours appliqué, qu'on a encore des progrès à faire et que justement parfois on construit encore n'importe où.
Donc différentes lois existent, loi sur l'eau, loi sur le bruit, comme vous disiez. On va s'intéresser essentiellement à tout ce qui est droit de l'environnement aujourd'hui dans cette émission. Donc on va peut-être commencer par l'historique, à partir de quel moment est-ce que l'homme s'est intéressé à son environnement et s'est dit « tiens, là peut-être qu'il faut réfléchir à comment le préserver, le protéger, peut-être mettre des outils en place ».
Alors contrairement à une idée reçue, on pense souvent que le droit de l'environnement est né en France avec deux très grandes lois qui datent du mois de juillet 76. Il y a eu d'abord la loi numéro 76-629 du 10 juillet 76 sur la protection de la nature, suivie quelques jours plus tard de la loi numéro 76-663 du 19 juillet 76 sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Et là, on a eu deux lois qui ont couvert les deux grands volets du droit de l'environnement, la nature et la lutte contre les pollutions industrielles. Mais dans la réalité, l'environnement ou le droit de l'environnement a une origine beaucoup plus ancienne. Peut-être pour vous donner un premier exemple d'un texte très important, l'ordonnance de Louis XIV. Bon, c'est Colbert qui l'a rédigé, mais c'est Louis XIV qui l'a signé, d'août 1669, sur les eaux et forêts. Hein, donc deux grands thèmes d'environnement avec des textes qui ont encore marqué notre droit aujourd'hui. Alors, on peut même parfois aller encore plus loin, puisque les premiers qui ont réfléchi à l'aspect environnemental et au droit, c'est les Romains, et notamment les statuts des éléments de l'environnement qu'on applique encore aujourd'hui, c'est les Romains qui ont trouvé ces statuts. Alors maintenant, dans l'histoire un peu plus récente, au niveau français, on peut citer par exemple les premières réserves forestières qui datent de 1845, alors qu'on a fait dans la forêt de Fontainebleau pour protéger quelques très très belles forêts. Alors on appelait ça à l'époque des séries artistiques. Alors, autre exemple méconnu, le premier parc national. On a toujours tendance à dire ça a été le parc de la Vanoise après la loi de 1960, alors que le tout premier parc portant ce nom de parc national, c'est le parc de la Bérarde. Alors, il a été créé le 31 décembre 1913, si ma mémoire est bonne, dans le massif des Écrins, où il y a encore aujourd'hui d'ailleurs un parc national. Alors ensuite, l'histoire s'accélère un peu, si je ne parle pas trop longtemps. Il y a eu une très très grande loi qui a aussi beaucoup marqué la protection en France, qui est la loi du 2 mai 1930 sur les sites pittoresques, et qui a permis de protéger des sites présentant un intérêt historique, légendaire, artistique, scientifique, donc l'aspect nature.
Ou culturel, mais là ça n'a rien à voir avec l'environnement.
Ou même culturel, si, parce qu'il y a l'environnement, il peut être ou naturel,
ou culturel,
ou paysager, culturel. Et donc cette loi couvrait tout. Elle existe encore, elle est maintenant dans le code de l'environnement, et elle avait l'originalité d'avoir deux niveaux de protection. Alors, tout le monde a entendu peut-être parler des sites inscrits, c'est-à-dire inscrits sur un inventaire des sites départementaux intéressants et où l'administration va avoir un suivi léger. Et au contraire, quand un site mérite une protection immédiate, on va alors le classer. Et un site classé est protégé, il est interdit de le modifier. Alors, exemple de site classé très célèbre, le Mont-Saint-Michel. Et ici, dans la région, le ballon d'Alsace, hein, qui est aussi considéré comme le Mont-Saint-Michel, hein, des grands sites nationaux. Alors, bien entendu, il y en a d'autres, hein, tout le Piémont vosgien est en site inscrit. Pareil, l'île du Rhin, hein, entre le Rhin et le canal d'Alsace, bénéficie de cette protection de site inscrit.
Mais un site inscrit, concrètement, ça implique quoi? Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont strictes en matière de développement, d'urbanisation?
Alors, c'est une protection, on pourrait dire, ultra légère, mais intéressante quand même, parce que toute personne qui veut faire des travaux dans un site inscrit doit les déclarer 4 mois à l'avance. Et comme ça, l'administration a 4 mois pour voir est-ce qu'elle autorise les travaux, enfin est-ce qu'elle les admet et puis on les laisse faire, ou au contraire, est-ce que le site risque d'être détruit. Et dans ce cas-là, dans les 4 mois, l'administration peut lancer une protection lourde qui va être le site classé. Et une fois que le site est classé, là, il sera interdit de le modifier. Et entre-temps, les travaux, bien entendu, sont gelés.
Pour les lois, qui c'est qui décide d'une loi? Comment se crée une loi?
Alors, l'origine des lois peut être rappelée que, puisque c'est un Français qui est à l'origine de la formalisation de ce principe, Montesquieu, qui avait dit que dans le droit, un État avait 3 rôles à jouer, et entre autres, d'abord faire les règles de droit. Donc c'est faire les lois, et qui les fait, c'est le pouvoir législatif. Ensuite, il faut que quelqu'un les applique, c'est l'exécutif. Et enfin, quand on applique les lois, il y a toujours des conflits, il faut que quelqu'un les tranche. Troisième rôle de l'État, la justice. Alors, suite à ça, et suite à la Révolution, les lois, maintenant, sont votées par le Parlement, hein, donc les députés et les sénateurs. Alors, qui peut être à l'origine d'une loi? Bon, officiellement, c'est soit le gouvernement, donc on parlera de projet de loi, soit un député ou un sénateur qui peut déposer une proposition de loi. Hein, donc, mais sinon, après, tout le monde peut proposer ou au gouvernement, ou à un député, un sénateur, de faire un projet de texte hein, que ensuite les assemblées vont débattre entre elles. Enfin, chaque assemblée débat du projet. Les députés peuvent ajouter, enlever des articles, modifier le texte, hein, ce qu'on appelle un droit d'amendement. Ils votent. Et une fois que les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, ont voté le texte en commun, il ne manque plus que la signature très importante du président de la République hein, qui va promulguer la loi. Et donc, à ce moment-là, elle va être publiée au journal officiel et appliquée.
Et appliquée par qui ? Comment est-ce qu'on veille à son application ?
Alors, ensuite, qui va appliquer la loi ? Ben, à Paris, le gouvernement. Hein, donc l'exécutif, avec ses deux représentants les plus connus, le président de la République hein, et le Premier ministre avec son gouvernement. Donc c'est eux, c'est les ministères qui vont suivre l'application des lois, notamment, alors commencera ce travail souvent assez long et difficile de faire les fameux décrets d'application des lois. Alors une fois que ces décrets ont été pris, eh ben, on va appliquer sur le terrain. Et là, qui va appliquer sur le terrain ? Donc ça dépend, mais en règle générale, c'est les services de l'État qui travaillent pour le préfet. Donc c'est le préfet qui est le représentant du gouvernement et qui va appliquer les lois sur le terrain.
Donc on va y aller sur le terrain et on va essayer de comprendre concrètement ce qui se passe. Donc sur le terrain, on est en Alsace, hein, donc on va prendre une espèce locale. Allez-y, citez-moi une espèce protégée en Alsace.
Alors il y en a beaucoup, mais peut-être l'espèce la plus emblématique du moment, c'est le fameux Cricetus cricetus, dit le grand hamster d'Alsace ou la marmotte de Strasbourg. Alors, une espèce qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment.
Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Donc, tout d'abord, il faut rappeler que dans sa vie, cette espèce a d'abord été classée nuisible parce que son milieu naturel, qui est en Europe les steppes, hein, a disparu. Et on a remplacé ça par de l'agriculture. Mais alors que d'autres espèces en souffraient, ben lui, il a trouvé très bien qu'il y ait enfin des hommes qui travaillent à son alimentation. Et donc, il a bien aimé l'agriculture, voire trop, puisqu'il a commencé à pulluler. Et de ce fait-là, il était classé nuisible. Je crois qu'encore nombre d'Alsaciens se souviennent que quand ils étaient petits, on leur donnait une prime quand ils ramenaient des queues de hamster. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est-il passé ? L'agriculture a changé et on a fait beaucoup de maïs. Et là, c'est une culture qui n'est pas bonne du tout pour le grand hamster et il a commencé à régresser. À tel point que maintenant, il est en Alsace en voie d'extinction. Or, nous sommes la seule région de France où cette espèce est présente. Hein, donc, il est plus emblématique encore que la cigogne, qui n'hésitent pas à aller, par exemple, chez nos voisins lorrains, hein, ou dans d'autres régions d'Europe, mais elle n'est pas qu'en Alsace, hein, en tout cas en France, alors que le grand hamster, il n'est qu'alsacien.
Et comment est-ce qu'on le protège, alors, ce grand hamster qui est une espèce endémique ?
Disons, il est endémique à l'est de l'Europe, et en Alsace, on est dans sa limite ouest hein, de répartition. C'est pour ça qu'il est assez aussi fragile. Bon, il régresse aussi dans le reste de l'Europe, hein. Alors c'est une espèce quand même qui est peut-être maintenant plus difficile à protéger que les autres, dans la mesure où il ne vit pas dans des milieux naturels. Ou donc pour d'autres espèces, il est facile d'un côté hein, de protéger leur milieu, et puis on protège l'espèce. Or, le grand hamster, lui, n'a plus de milieu naturel, il vit dans les milieux agricoles. Et donc il y a deux menaces énormes qui pèsent sur lui, certaines pratiques agricoles, qui sont dévastatrices, hein. Pas toutes, hein, donc, mais il y a certaines pratiques, notamment, je l'ai déjà cité, le maïs, hein, et aussi le fait, mais là les agriculteurs en souffrent eux-mêmes, c'est la consommation des terres agricoles. Et donc chaque fois qu'une commune a un projet de lotissement, qu'on a un projet de route, ben, on consomme des terres agricoles, or c'est les terres du hamster, et petit à petit son espace vital disparaît.
Mon ami, il y a un bout de temps que tu es parti, que t'as quitté les copains, que t'as quitté la vie, tel était ton destin. Eh, mon copain, et mon ange gardien, comment c'est tout là-haut? Y a-t-il beaucoup moins de salauds? Y en a-t-il un petit peu moins? S'il y a toujours une poignée d'hommes qui contrôle, dirige et ordonne. Toujours une poignée d'hommes qui décide du bonheur des autres hommes. Une bande de chiens enragés qui ont sur nous droit de vie, de mort ou de pitié. Tu sais, c'est divisé pour mieux régner, pour que l'ordre des privilèges soit respecté. Hey, mon ami, il y a un bout de temps que tu es parti, comme une étoile dans la nuit qui filait, qui s'éteint, mais tel était ton destin. Hey, mon copain, mon poteau, mon frangin, comment c'est tout là-haut? Y a-t-il beaucoup moins de salauds? Y en a-t-il un petit peu moins? S'il y a toujours ce putain de borgne qui attire les bœufs, les charognes. Et toujours plus de lois, plus de dogmes pour avilir le cœur des braves hommes. Et toujours ce peuple endormi, prêt à suivre n'importe lequel des abrutis. S'il croit qu'il défend sa pitoyable vie, qu'importe les valeurs et qu'importe le prix. Et toujours ce peuple asservi devant sa télé ébahie, prêt à suivre n'importe lequel des abrutis, qu'importe les valeurs et qu'importe le prix. Depuis le temps que tu es parti, rien n'a vraiment changé au sein de l'humanité, c'est dominant, dominé. Mais quand je me noie dans ses yeux d'enfant, je retrouve mon innocence. C'est même si c'est pas le paradis, que c'est beau la terre et que c'est beau la vie.
On va s'éloigner un petit peu du grand hamster et je vais poser une question naïve sur l'environnement au sens global. Pourquoi est-il nécessaire de le préserver? Pourquoi est-ce qu'on veille à sa protection, à sa préservation et à la survie de certaines espèces?
Alors on peut avoir deux visions des choses. Hein. Il y en a qui veulent protéger la nature pour la nature elle-même, l'homme faisant partie d'un ensemble. On peut aussi avoir, il est bon de le rappeler, une vision très, très mercantile et de survie de l'espèce humaine. Les humains maintenant ont beaucoup utilisé les médicaments provenant des plantes. Et pour donner un exemple, on sait maintenant que les médicaments du futur, ce seront peut-être les médicaments issus des insectes. Or, en ce moment, la biodiversité disparaît. Et en quoi elle est dramatique, disparaissent des milliers d'espèces, et notamment par exemple des espèces d'insectes. Alors on pourrait se dire, tiens, il y en a un de moins qui va me piquer, mais peut-être que cet insecte-là avait dans son patrimoine génétique une des clés des médicaments de notre avenir. Alors je peux vous donner un petit exemple tout bête, hein, les tiques, c'est des bestioles quand même extrêmement désagréables. On n'aime pas en avoir, elles transmettent des maladies, même dont certaines extrêmement graves. Et voilà qu'on pourrait se dire qu'il faudrait les détruire, qu'on n'en ait plus une. Tout récemment, en Amérique du Sud, je ne sais plus dans quel pays, des chercheurs ont découvert que la bave d'une tique locale tuait les cellules cancéreuses sans s'attaquer aux cellules saines. Et donc, ils sont en train d'étudier ça, de voir un peu plus loin. Et qui sait si demain, on ne vous dira pas, vous irez chez le médecin, on vous dira, vous avez un cancer en phase terminale, mais ce n'est pas grave, vous allez boire votre jus de tique matin et soir pendant 15 jours et vous serez guéri. Hein, et donc, maintenant, Alors, c'est pas sûr, mais si la tique avait disparu de la planète, on n'aurait pas découvert la propriété particulière de sa salive, quoi.
Donc ça, c'est un point de vue purement hédoniste, hein, finalement, oui. Protéger les autres espèces pour pouvoir assurer sa propre survie. Mais quel est le deuxième point de vue qu'on peut mettre en avant ?
Alors, on peut dire, on peut protéger la nature pour elle-même. D'ailleurs, on sait que toutes les espèces apparaissent sur Terre et finissent par disparaître. Alors, de toute façon, un jour, l'homme disparaîtra de cette planète. Peut-être au contraire des dinosaures, je crois que c'est pas de moi, de M. Reeves, quoi, qui a dit les dinosaures, on savait pas pourquoi ils ont disparu, maintenant il semble que si. On sait déjà que les dinosaures, ils n'ont pas disparu de leur faute, ils y sont pour rien. Et en revanche, les hommes, on sait que s'ils disparaissent, ce sera sans doute de leur faute s'il y a une disparition accélérée.
Donc on va revenir à l'historique, hein. On a vu des grandes lois, on parlait de 76, la grande loi de protection de la nature. Qu'est-ce qu'elle implique ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette loi ?
Alors, dans cette loi, il y a eu les prémices des grands droits, entre autres en matière... Enfin, c'est une loi qui offrait plusieurs choses. D'abord, elle mettait en place un système plus moderne en matière de réserve naturelle. On avait un système, mais qui n'était pas très développé. Et donc, la loi a instauré un nouveau système très cohérent de réserve naturelle. Alors, qu'est-ce qu'une réserve naturelle ? C'est un peu, en principe, plus petit qu'un parc national. Et ça permet de protéger efficacement, tout en gérant, un espace naturel fragile ou de grande valeur. D'ailleurs, le succès de la formule vient témoigner de la qualité du système. On a à peu près, je crois, plus de 250 réserves naturelles en France. Et on continue encore d'en créer. Donc ça, c'est l'un des volets. Ensuite, je l'avais déjà dit, la loi a créé la protection des espèces, hein, rares et menacées. Elle a aussi instauré, ça c'est une œuvre des députés, ce n'était pas dans le projet du gouvernement, la très célèbre étude d'impact. Avant de faire un projet destructeur de l'environnement, il y a une obligation, dans pas mal de cas, d'étudier ses impacts potentiels sur l'environnement. Et s'il y en a trop, on ne fait pas le projet. S'il y en a pas trop, et on demande à ce qu'on mette en place des mesures qui atténuent ou compensent les effets du projet. Donc ça, c'est la grande œuvre aussi de la loi de 76, et enfin, elle a commencé à parler des grands principes en matière d'environnement, en disant, entre autres, que la protection de la nature était d'intérêt général. L'un des mots phares utilisés en droit de l'environnement, qui n'est pas le seul, mais qui est effectivement la notion d'équilibre. Alors, par exemple, dans l'eau, la loi dit qu'il faut assurer une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques ou de la ressource. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien, il faut donner de l'eau à ceux qui en ont besoin. Alors, pour boire, donc l'eau potable, il faut donner de l'eau à ceux qui ont besoin pour l'activité, l'industrie, pour l'agriculture. Mais en même temps, il faut protéger la ressource, ne pas la détruire, parce qu'on en a besoin pour tout le monde, il y en a des besoins pour la nature, et aussi besoin demain. Hein, donc, ensuite, sont nées d'autres idées, comme l'environnement, c'est le patrimoine commun de tout le monde. Et on s'est dit, tiens, si c'est un patrimoine... On peut en vivre et ensuite on peut le léguer aux générations futures. Et on a encore fait un peu progresser en parlant maintenant de développement durable. C'est maintenant devenu le concept à la mode, peut-être même un peu trop à la mode. Et comme je suis les modes depuis une trentaine d'années, la question que je me pose déjà, c'est quand le développement durable ne sera plus à la mode, quel sera le prochain concept ? Qui trouvera le concept de demain ? Alors, le développement durable, hein, est une mauvaise traduction du développement soutenable, hein, qui était l'idée d'origine. C'est-à-dire développer ou se développer, mais à la condition de ne pas obérer notre avenir. Alors, en fait, c'est en ça qu'il faut trouver les équilibres. On va être obligé de, sans doute, plus on est nombreux sur la planète, hein, plus il faudra qu'on ait une approche très sensible, très précise des problèmes.
Mais j'ai l'impression que la logique est inversée, qu'aujourd'hui c'est la nature au service de l'homme. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être l'inverse ?
Alors, peut-être pas dire l'homme au service de la nature, hein, mais on croit pouvoir dominer la nature. Je crois que ça, c'est peut-être pas la bonne idée. L'homme est un élément du système naturel, mais ne la dominera peut-être jamais. Alors, on a encore vu justement avec la tempête Cynthia, on fait des digues et on croit que c'est bon. Et puis, on oublie que parce que la Terre se réchauffe, même si certains contestent qu'il y ait des changements, il y a la tempête Cynthia qui a montré que peut-être l'eau est en train de monter, effectivement. Au service de la nature, ni la dominer, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est trouver le bon équilibre.
Encore une fois, le mot équilibre. Ouais. Oui. Vous utilisez le mot système, donc c'est vrai qu'on parle en environnement d'écosystème, où finalement tout est subtilement lié, une interdépendance entre les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Mais vu que tout est lié, comment est-ce qu'on délimite des barrières physiques finalement? Ça va bien au-delà. C'est comme un peu le concept des frontières. Un jour, l'homme a dit, ben tiens, ici, ça va être la frontière entre tel et tel pays. Qu'est-ce qui va délimiter la frontière entre une zone protégée et une autre qui ne l'est pas, alors que tout communique? Alors,
c'est l'un des gros problèmes du droit de l'environnement en général. C'est ce qu'on appelle les seuils. À un moment donné, il faut bien effectivement délimiter, et parfois précisément, surtout que les gens ont besoin d'une certaine sécurité. Le juriste, lui, il n'en a pas besoin. Plus la règle est floue, plus il va s'amuser avec le concept. Et par exemple, le code civil a dit dès qu'on a un cours d'eau, il faut partager avec les usagers en aval. Mais le code civil n'a jamais dit qu'est-ce que c'était un cours d'eau. Il n'a pas dit non plus s'il y a tant et tant d'eau qui coule. Et donc, s'il y a un conflit un jour, on va devant un juge. Et en fonction de la région où il est, de la pluviométrie, de la météo qui peut changer, donc le concept peut changer dans le temps, ben il va dire ça c'est un cours d'eau, ça n'est pas, il tranche. Hein. Alors ça c'est une approche que les dirigeants, notamment dans les ministères, n'aiment pas tellement. Et donc eux ils aiment bien mettre des seuils, mais tout seuil a des limites. Hein. On peut prendre par exemple dans les installations, les élevages industriels, un élevage de cochons, jusqu'à 450 places est soumis à simple déclaration. C'est-à-dire qu'il suffit de dire « tiens, je vais le faire ». Et puis on respecte des règles de fonctionnement. Et à un cochon de plus, qu'est-ce que ça change au niveau pollution? Rien du tout. À un cochon de plus, il faut tout d'un coup faire une étude d'impact, il faut faire une étude de danger au cas où la porcherie pourrait exploser, il faut faire une enquête publique, ça va durer 2 ans pour un cochon. Et donc, effectivement, les seuils montrent leurs limites. Hein. D'ailleurs, justement, dans ce domaine, maintenant, le ministère est en train de mettre en place un nouveau seuil parce qu'ils se sont rendus compte qu'un basculement où il n'y a presque rien et deuxièmement, où il y a pour un cochon de plus, on arrive dans des procédures très lourdes, ce n'était pas bien, qu'il fallait trouver un stade intermédiaire. Mais il y aura toujours ces problèmes de seuil. Alors maintenant, dans une réserve naturelle, ça va parfois être quand même un peu plus facile, enfin, si j'ose dire, dans la mesure où justement vous avez un écosystème, un morceau de nature qui fonctionne souvent de manière un peu autonome, il y a ces espèces, etc. Et donc autour, il y aura des zones agricoles. Alors si on se rend compte que la zone agricole ne participe pas à la protection, au fonctionnement de ce système naturel, ben, on pourra les exclure, la réserve restera juste à l'endroit. Mais parfois, si on se rend compte que les abords, et là on l'a souvent en matière paysagère, par exemple en matière de sites protégés, on a parfois mis dans des sites classés ou inscrits des endroits qui n'étaient pas beaux. Mais parce qu'ils servaient de zone tampon paysagère, en se disant si on met là dans la protection, on ne détruira pas cet endroit qui n'est pas beau. Bon, c'est un peu idiot, mais alors surtout on empêchera d'enlaidir le paysage de l'endroit qui est juste derrière et qui, lui, est très beau. Hein, donc, c'est une approche très pragmatique. Alors, comment on arrive ensuite à essayer de trouver les bonnes solutions? Par des procédures administratives, où il y a les pour, les contre, peuvent s'exprimer, peuvent discuter, et puis après, il y a une autorité qui va décider, qui va trancher.
Merci Bernard.
Merci de votre invitation.
On inspire. On expire. On respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent. tourne pas rond. Thank you.